Salut.
Bonjour, bonjour.
Ça va, Manuel?
Ça va bien, et vous?
Ça va, Manuel qui est domestiqué, il a déjà son casque et tout.
C'est
il est déjà
incroyable, non mais là c'est fou. Léo
c'est
a dit, j'ai un sujet, je l'enverrai plus tard à Thomas. Enfin, tout est... Personne se renvoie la balle ce soir, on est super chaud.
Franchement...
Ça va, Léo?
Ouais, je voulais vous parler d'un petit projet que j'ai en tête. Je sais que je dis souvent, surtout dans ce podcast, que je prévois rien, je vis un peu au jour le jour. Mais aujourd'hui, c'est différent. J'ai prévu de gagner à l'euro-million.
Oh putain.
C'est pas des conneries.
Oula. Bah non, on sait que c'est pas des conneries en plus.
Non, je sais juste pas quand, mais je m'y prépare. J'ai commencé à chercher des apparts et tout. Putain, c'est cher Paris. Hein. Bon, bientôt j'aurai plus de problèmes, mais c'est quand même hyper cher.
Mais il faut que tu fasses du stand-up, je te jure.
Comme je suis pas encore riche, mais que je sais que ça va tomber du jour au lendemain, j'ai commencé à vraiment me préparer à devenir riche. Alors je trouve que c'est un sujet intéressant parce que ça peut tous nous arriver, par accident ou non. Par exemple, Manuel est extrêmement riche. Les gens le savent pas forcément, mais il a autant de millions que d'années. Je vous laisse faire le calcul.
Mais par choix.
Alors j'ai lu un article qui parle...
J'en ai plus.
T'en as plus ? Ouais. T'as plus de millions que d'années ?
Ouais,
putain,
bah
c'est
oui.
Énorme. J'ai lu un article qui parle pas des avantages de la richesse, parce que ça, j'arrive plutôt bien à les imaginer, mais aux inconvénients
je vais adorer.
De la richesse.
Je vais adorer, mec.
Ce qui est un sujet assez tabou, parce que dans
c'est
l'inconscient collectif, la richesse évince toute forme de problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui. Enfin, il y a plein de trucs à dire, mais mec, c'est incroyable comme sujet.
C'est un sujet pour Romain. T'as décidé de draguer Romain.
C'est mon anniversaire, mec.
L'auteur écrit « Lorsque les avantages de l'argent sont si évidents, mais que ses inconvénients sont si subtils, les inconvénients que vous n'aviez pas prévus peuvent être plus choquants que les avantages auxquels vous vous attendiez. »
Je suis d'accord.
Ouais,
c'est très facile de se projeter sur l'ensemble des avantages qu'une somme d'argent peut te procurer, mais tu ne mentalises jamais la nature et l'ampleur des emmerdes qui vont avec.
Mais j'ai même envie d'étendre ce phénomène-là à tout ce qui peut paraître incroyable ou tous les nouveaux projets. Quand tu lances une boîte, quand tu achètes une voiture, quand tu achètes une belle voiture, tu te dis toujours « Ah, ça va être incroyable !» et puis tu oublies très vite les emmerdes, les parkings, les déplacements, les rayures. Mais
le c'est confort insupportable que ça procure.
Même raisonnement, moi je fais souvent cette analogie, il se passe la même chose, et pourtant c'est pas tout à fait pareil, entre le fric et la notoriété.
Ouais,
ah
complètement.
Putain, c'est bien, ouais, c'est vrai.
Il y a un parallèle à un moment. Ouais. Tu vois, moi par exemple, je commence à devenir trop connu.
Merci Internet.
C'est très difficile. Ma célébrité commence à surpasser mon ego, ce que je ne croyais pas possible.
Moi non plus.
Alors l'auteur a recensé des lois pour devenir riche, une liste d'inconvénients subtils, faciles à ignorer et pourtant très courants, appuyés par des citations de personnes riches. Ils n'ont pas demandé à Manuel encore, peut-être qu'il faudra une mise à jour à cet article.
Tu l'as cité ? Non, ok, c'est un auteur d'un article, c'est pas un livre que tu as lu ?
Non, c'est un article qu'on mettra évidemment dans la description, mais c'est quand même plus intéressant de nous écouter parce qu'on va y réagir et j'ai hâte d'avoir vos réactions. Première loi.
Mec, j'ai l'impression d'être à un jeu. J'ai envie de buzzer.
Tu veux qu'on joue au juste prix plutôt ? La plupart de ce qui vous rend heureux dans la vie n'a rien à voir avec l'argent. Et le réaliser seulement une fois que vous avez de l'argent peut être un aveu douloureux. Il cite Rick Rubin qui dit « Il est difficile de devenir vraiment déprimé jusqu'à ce que ses rêves se réalisent. Une fois que vos rêves se réalisent et que vous réalisez que vous ressentez la même chose qu'avant, vous ressentez un sentiment de désespoir. »
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tout à fait d'accord. En fait, c'est un raisonnement en creux, c'est-à-dire que malheureusement, je ne sais même pas par où commencer. Malheureusement, il y a plein de gens qui ont besoin de se casser la gueule vraiment physiquement pour comprendre que ça égratigne et que ça fait mal. Ta capacité, je trouve que les gens qui avancent le plus vite dans la vie sont les gens qui n'ont pas besoin forcément de vivre les choses pour les comprendre. Et ça démarre très tôt.
Ouais.
C'est-à-dire que ta capacité à comprendre un raisonnement qui est dans un livre doit te permettre d'avancer dans ton éducation et ton élévation plus vite. T'as pas besoin d'avoir traversé le désert à pied pour savoir qui fait chaud ou ce que le peuple juif a vécu, par exemple. Tu as pas besoin de faire la grève de la faim pour comprendre ce qu'un mec qui te raconte son parcours de grève de la faim provoque et mentalement et physiquement, etc., etc. Et je pense qu'avec l'argent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être riche pour être capable de comprendre ce que ça veut dire. Tu dois être capable de te projeter par avance. C'est ton design plan dont tu nous parles. Tu es en train de tout prévoir pour le moment où ça va arriver.
Mais ça fait un moment. Mais là, je sens qu'il faut que j'accélère quand même un peu la formation.
Ah, ouais. Et pour moi, la meilleure illustration de cela, c'est le docu sur Squeezie.
Je ne l'ai pas vu.
Que j'ai regardé. Tu l'as regardé, Romain ?
Ouais, je l'ai vu aussi.
Le mec s'épanouit. Le mec fait des projets fous. On voit enfin, et c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette série, le volume de travail investi qui est rarement valorisé. Et pour une fois, on voit l'envers du décor, on voit les doutes, l'implication qu'il faut, les claques que tu te prends, les déceptions, etc., etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la fin. C'est que le mec, de façon évidente, a de l'argent, a de la notoriété. On combine les deux points que je citais tout à l'heure.
C'est difficile.
Et il vit dans l'angoisse de ne plus être le numéro un.
Ouais.
Et c'est son angoisse de tous les jours.
Thibaut InShape.
Ouais, qui est devenu numéro 2 officiel.
Ça y est. Ouais. Ce qui était intéressant aussi dans le docu, c'est le moment où il te dit on fait toujours un projet pour l'idée, jamais pour l'argent qu'il pourrait rapporter. Et une fois que tu le fais pour l'idée, c'est ça qui t'anime vraiment et qui te rend heureux avec tes équipes de faire quelque chose. Et il se trouve que l'idée est tellement folle parce que tu le fais pour ça, qu'ensuite en découle énormément d'opportunités business. Mais si tu fais un projet que pour le business, tu as 99% de chances de te planter. Et il cite de nombreux projets qui ont complètement foiré pour ça. Mais je suis complètement d'accord.
C'est pardon de te couper, et c'est pour ça que je n'adhère absolument pas à une sphère que toi, tu regardes et qui t'intéresse, qui est toute la sphère finance.
Ouais.
C'est-à-dire les adorateurs du fric pour le fric, ça ne m'a jamais intéressé. Mais je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est mon prisme à moi.
Pas toi.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée. Alors, évidemment, si l'idée génère de l'argent pour les équipes qui la fabriquent, pour les gens qui la lead, pour l'organisation qui est derrière, je trouve ça tout à fait mérité. Mais les gens qui sont dans la sphère finance, c'est de la pure spéculation, du pur achat-revente, du pur trading, toutes les formations de trading accéléré, qui ferait bien de prendre des formations en orthographe aussi.
C'est une catastrophe.
Ça, j'ai franchement aucun respect pour toute cette sphère-là d'Internet qui pourtant existe.
Mais je trouvais ça intéressant justement de leur donner la parole. C'est ce que j'avais fait avec Joe Cariz récemment sur Twitch. C'est un ex-Goldman Sachs, etc. Et il t'explique qu'en fait, il n'était pas heureux. Il se faisait des tickets de malade tous les mois avec des bonus et tout. Le mec, il a fini par être créateur de contenu pour des écoles, etc. Donc je trouvais ça aussi intéressant de montrer ça à ma communauté qui parfois peut être aveuglée par les contenus TikTok de merde, etc. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on me pose à chaque fois, c'est « Ah, mais t'aimes le fric, donc tu découvres des trucs pour faire les droits musicaux et tout. » Bah non, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas dans ce sens-là. C'est d'abord, j'aime bien la musique, je regarde l'industrie de la musique et je découvre qu'il y a ce truc-là. Et parce que ça me fait kiffer, bah je le fais. Et puis indirectement, après, ça peut rapporter de l'argent, mais je le fais d'abord parce que ça me fait kiffer.
Ah ouais,
je l'analyserai pas comme ça.
Je dirais que tu cherches, les gars. Tu cherches un truc qui te plaît.
Bah oui, mais je le
fais
d'abord pour
ça. Mais dont le deuxième critère est immédiatement, est-ce que ça va rapporter de la thune?
Ah bah
c'était quand même monégasque.
Si les deux conditions sont pas cochées,
t'as un deal.
Ah non, je suis d'accord, mais tu vois, je le fais pas que pour le fric.
Non, il faut un prétexte.
Ah moi, il me faut un truc qui ça m'éclate, ça me fait rire. Quoi,
mais
voilà.
C'est un prétexte.
Ah ouais, ok.
Bah oui, mais c'est un handicap de naissance, on peut pas t'en vouloir, Romain.
C'est vrai.
Pour répondre juste, Léo, sur la partie que tu citais, sur le fait que quand on l'a, c'est à ce moment-là où peut commencer le fait d'être triste, de s'ennuyer, etc. Voilà, la désillusion. Je trouvais ça vachement vrai parce que tu vois beaucoup de personnes qui réussissent, qui idolâtrent une vie qu'ils pourraient déjà avoir, sauf qu'ils ne l'ont pas parce qu'ils se disent c'est trop tôt. Et vu que c'est ce truc-là qu'ils veulent absolument, j'en sais rien, la maison de campagne, les belles voitures, le truc ou le machin, ils pourraient déjà l'avoir, ils pourraient quitter la ville, ils pourraient faire plein de choses, etc. Mais ils ne le font pas parce qu'ils se disent parfois c'est trop tôt et qu'est-ce que je ferai après ? Et ils ont l'impression que s'ils atteignent ce truc-là qu'ils idolâtrent depuis longtemps, c'est ça qui les rendrait...
Il n'y aura pas de suite, quoi.
Exactement.
Comme si ça hypothéquait leur capacité.
Exactement, c'est ouf.
Il faut atteindre ses rêves, mais pas trop vite.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il y a un point qui viendra là-dessus après.
Ah.
Deuxième loi, ce que vous
pensez... Tu nous as rien dit, Léo, là-dessus, toi.
De quoi ?
Bah, sur ce point. Parce que tu nous fais parler, là, gentiment, etc., mais...
Bah, en fait, comme je n'ai jamais couru après l'argent, c'est pas le truc que je trouve très sexy. Je sais que j'en profiterai. Si demain je gagne effectivement 1 euro million, je n'aurai aucun mal à en profiter.
Bah, à mon avis, le chiffre d'affaires d'Amazon va changer.
Oui, ça c'est clair. Mais j'ai rien construit autour de cet objectif. Tout ce que j'ai mis en place dans ma vie n'a aucun rapport avec l'argent. C'est juste que ça permettra effectivement d'en faire plus et de le faire de manière plus sereine. Mais le seul truc qui me drive, c'est la passion. Ça n'a jamais été l'argent. Donc je sais que je ne cours pas après ça.
J'ai déjà tout prévu pour toi, Léo.
Ah, ça me fait plaisir et peur en même temps.
Ça ne veut pas dire que ça va arriver.
Ah, d'accord. Ma richesse ?
Oui.
Si, ça, si. Bah si, je
bah voilà. J'ai prévu. Donc c'est exactement la preuve de notre travail.
Oui.
C'est que tu pars d'un axiome.
Oui.
Puis moi, je prévois toutes les hypothèses autour.
Ça ne m'intéresse pas. Deuxième loi, ce que vous pensez être de l'admiration pour votre réussite peut en réalité être de l'envie. Il cite Drake qui dit « Les gens vous aiment davantage lorsque vous travaillez sur quelque chose, pas lorsque vous l'avez. » Et il cite aussi Robert Greene « Ne soyez jamais aussi stupide pour croire que vous suscitez l'admiration en affichant les qualités qui vous élèvent au-dessus des autres. En faisant prendre conscience aux autres de leur position inférieure, vous ne faites qu'attiser une admiration ou une envie malheureuse qui les rongera jusqu'à vous miner d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir. »
Il a vraiment des sources et des citations très différentes.
Oui, c'est éclectique. Oui.
Ouais.
Mais moi, c'est le truc, si j'ai bien compris ce que tu me dis là, moi, c'est le truc qui m'emmerde le plus et que j'essaie un peu de débunker sans pour autant paraître pour le mec donneur de leçons et autres. C'est le fait que tu peux faire du fric, mais faut le montrer soit de telle sorte à ce que les autres peuvent en faire aussi, soit il faut pas forcément montrer des choses qui peuvent te mettre plus en valeur que certaines personnes, etc. Enfin, tu peux faire du fric, mais il faut pas le voir. C'est un peu ce que parfois je retiens dans certains business. T'as des mecs qui réussissent vachement bien et ils vont pas te dire combien ils ont investi, combien ils ont risqué, etc. Parce qu'ils veulent pas que l'audience se dise ah ouais, mais moi ça je peux pas le faire, alors je me reconnais plus dans ce qu'il dit.
Moi, je pense que c'est plus profond que ça. On n'est pas protestants, les gars. On n'est pas protestants. Même les monégasques. Les protestants, ils n'ont pas de problème avec le succès, l'argent, la transparence, parler d'argent, etc. etc. Ça, c'est la culture plus anglo-saxonne, on va dire. Même l'église anglicane, si on voulait aller dans les détails, n'a même pas, elle, de problème avec tout ça. Voilà, nous, on est dans un chemin de pénitence. Notre élévation se fera après, en fait. Ce sera une élévation céleste. Tu es sur terre pour en chier.
Ouais.
Ça, c'est notre tradition qui pèse sur nous. Donc, on n'aime pas les gens pour lesquels ça n'est pas un chemin de pénitence. Mmh. Surtout en France, on aime beaucoup l'égalité.
Mais moi, ce que j'aime, c'est quand on te raconte quelque chose de vrai. Ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est d'ouvrir les réseaux sociaux et de voir des gens qui te font croire que c'est facile. Tu sais, les gens qui te disent « Ah ben si, tu vas devenir entrepreneur, tu passes une demi-heure par jour, tu vas suivre ma formation, mon truc. » Ferme ta gueule, c'est faux. Tu connais personne autour de toi qui a réussi et qui a fait du fric en bossant une demi-heure par jour, en étant à Dubaï sur un jet ski. Enfin, tu vois, et c'est ça qui me... Moi, je suis OK pour parler d'argent, machin et tout. Par contre, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant de plus en plus, c'est de montrer aussi sur quoi tu travailles en fond, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, tu ne peux que mal vivre un succès financier si tu ne le relies pas à une forme de mérite. C'est un long débat avec Léo, puisque pour lui, gagner à l'euro million, il y a du mérite.
Bah évidemment.
On est d'accord.
T'avais qu'à jouer.
mais bon, c'est un long sujet, on ne va pas faire un sujet dans le sujet.
C'est le principe du jeu, si tu joues les bons numéros, tu les gagnes. Jamais la FDJ te dit « Ouais, mais toi, tu les as joués d'une manière qui fait que tu les mérites pas trop. »
Oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec Romain là-dessus.
Tu as appuyé sur le téléphone de manière nonchalante, quand tu as appuyé sur le 6, tu as hésité, donc tu les mérites pas.
Oui, mais parce que pour toi, mérite, c'est ça. Et pour Romain, c'est labeur.
Ça l'empêche pas de jouer à la loterie de la crypto-monnaie et d'accepter.
Mais je joue. Mais attendez, attendez. Non, les gars.
Fermez vos gueules, je veux pas qu'on aille là-dedans.
Non, mais
tout
ce que
suite.
Vous dites de. Attends. Ce que vous dites sur moi au début, là, c'est, tu penses à quoi quand. Parce que moi, les cryptos, par exemple, ça fait 3 ans que je suis sur les mêmes projets, que je stack pour le coup, enfin, pour ceux qui connaissent les termes et tout, je conserve ces cryptos-là, je trade pas,
tu
je suis pas trader.
Les gens qui nous écoutent pour des neuneux quand même.
Mais pourquoi? Non, mais sérieusement, les gars. L'argent, en général, je l'investis et puis ensuite, je patiente et ça tombe.
Bah moi, c'est pareil. En fait, j'investis 2,50€.
Non, mais ça, mais
la promesse,
je dis pas le compte.
Que
non,
peut-être
mais...
je peux gagner 240 millions et quand je vais le faire, je les aurais mérités parce que j'aurais investi 2,50€ toutes les putains de semaines.
Donc, pour revenir à ce qu'on disait, parce que ça y est, j'ai mis vraiment 1€ dans le jukebox, ça part tout seul. Je pense qu'il faut le relier à ton état d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas d'être humain qui vivra extrêmement bien le fait d'avoir été un hijacker. J'ai eu un coup de bol, j'ai gagné énormément d'argent, jeu à part.
Tu penses qu'il y a une forme de sentiment de devoir quelque chose?
C'est le témoignage que disait, que racontait Romain tout à l'heure avec son invité. C'est-à-dire que le mec aujourd'hui, s'il va dans les écoles, les hôpitaux, etc., c'est qu'il s'achète une conscience.
Ouais.
C'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond.
Putain, moi, ça irait, je crois.
Il faut quand même le vivre. À un moment, je pense que. Tu te sens. Moi, j'ai croisé des gens comme ça qui ont juste été un peu là au bon moment. Tu vois, ils ont pris des parts de la boîte au bon moment. Ils ont été là, mais ils n'étaient pas du tout là au début, etc. Puis il y a eu une exit de cette boîte.
Ouais.
Ils ont pris beaucoup d'argent. Ils ont eu le sentiment d'avoir pris beaucoup plus d'argent en 6 à 8 mois, alors que des mecs qui, ça faisait 4 ou 5 ans qu'ils bossaient sur le projet, ils ne le vivent pas si bien. Voilà. Et je pense qu'il faut. Se poser cette question-là, c'est-à-dire que on se pose trop la question du montant et pas assez la question de qu'est-ce que tu as fait. Et je pense que plus tu as travaillé, plus tu y as mis d'énergie, de passion, plus tu t'es relevé échec après échec, etc., plus tu trouves tout à fait normal que le montant soit important. Pour ce qui est difficile,
oui,
c'est un
sûr.
Montant très élevé avec aucune implication. Ça, ça peut poser quelques problèmes de SAV psychologique après.
Pour moi, c'est comme le sport et la bouffe. C'est plus facile de bouffer une mousse au chocolat quand tu fais ta séance de sport tous les jours que de bouffer des mousses au chocolat toutes les 3 heures quand tu fais pas de sport. Psychologiquement, c'est quand même plus facile.
Par contre, ça fait quand même longtemps que je te dis que le résultat est le même. Parce que tu peux pas être fourré à la mousse au chocolat non-stop, en fait. À un moment, il y a un problème.
Tu vois, mais pour moi, c'est cette image-là. Mais après, moi, c'est vraiment ma façon d'être. C'est que j'ai besoin de ce mérite-là, quoi. J'ai besoin de ce truc où je me dis, parce que j'ai fait ça, je peux m'octroyer ça.
Pour moi, c'est pas plus facile. Hein. Parce que quand tu fais du sport, il y a quand même cette psychologie de te dire, bah, je fais quand même pas du sport pour rien, je vais pas tout cramer avec une mousse au chocolat.
Oui, mais c'est plus facile.
D'ailleurs, Léo, à midi, il a mangé du quinoa.
Absolument, oui.
Bravo.
C'est vrai. J'ai mangé du quinoa.
Tu t'es régalé ?
Non, mais j'ai mangé du quinoa par contre.
Ok.
En fait, moi, c'est la notion de mérite, c'est un truc qui me plaît pas trop. Je crois que la vie marche pas comme ça. C'est pas Interville en fait.
Non, mais c'est pas ça. C'est parce que toi, tu relis le mérite à une sorte de forme de justice. Et en fait,
c'est ce qui me dérange.
C'est pas du tout. Je pense qu'il faut décorréler ces deux notions. Il y a le mérite. C'est une chose. Tu vivras mieux les choses si tu as une forme de mérite à les avoir obtenus. Premier élément. Deuxième élément, la vie est injuste.
Ouais, exactement. Et c'est là-dessus qu'on avait un désaccord avec Romain, c'est que pour moi, dans mérite, il n'y a pas de notion de travail.
Bah, je suis d'accord avec ça, mais je vous laisse à votre débat. On l'a déjà eu plein de fois, hors épisode, et je sais que vous vous enflammez très vite sur cette question, dans le bon sens du terme, hein, c'est un débat passionné.
Je comprends maintenant, non, mais je comprends le fait qu'on joue dans les règles. On joue dans les règles, et donc, tu as ce que tu mérites par rapport aux règles. Simplement, pour avoir vu des interviews de personnes qui ont gagné au loto, etc., bah, je pense, ce n'est que mon point de vue, que tu le vis mieux. Quand tu as appris ce que c'était que l'argent, à le gérer, à en gagner, etc. Moi, demain, tu me donnes 15-20 millions. Je pense que je le vis mieux parce que je saurais mieux gérer cet argent, je saurais mieux comment le placer, etc. Plutôt que des gens sur qui ça tombe du jour au lendemain et qui vont être heureux très vite, mais de façon très éphémère, à qui on ne l'aura jamais vraiment appris ce que c'était, pourquoi est-ce que c'était pas un stock, pourquoi est-ce qu'on pouvait en faire plein de choses, etc. Et à la fin, ils retournent souvent dans leur vie un peu
pour moi,
banale. Quoi.
Ça, c'est pas vrai parce que tu regardes des gens qui ont travaillé pour leur argent et qui se sont quand même cramé les ailes parce que ça veut pas dire qu'ils. C'est pas parce qu'ils ont travaillé qu'ils ont compris comment ça fonctionnait. Et tu regardes des gens, genre la dernière interview de Legend des gagnants du loto, qui n'ont jamais connu ça auparavant et qui le vivent très bien et qui ne font pas des folies. Et...
Oui, mais c'est quand même pour ça que la FDJ et le témoignage de la personne de la FDJ est très important dans cette interview. Et je vous encourage à aller voir cet épisode sur Legend, les gagnants du loto. La FDJ fait beaucoup de travail pour ces gros gagnants du loto, avec un travail et psychologique et d'accompagnement et de conseils, et etc., etc. Et je pense que c'est très, très important.
Parce en fait, que, je pense que là où je me suis mal exprimé...
Il y a une énorme stade de gens qui deviennent très, très vite moitié SDF, ou en tout cas banqueroute totale, après avoir gagné beaucoup d'argent, en fait. Parce qu'ils ne savent pas le gérer.
Je voulais pas dire que parce qu'une personne n'a pas gagné beaucoup d'argent avant, etc., le gérera moins bien dans la façon de faire fructifier son argent, c'est plutôt de la gérer de la façon psychologique.
Oui, bien sûr.
C'était plutôt ça que je voulais dire, et c'était pas le fait de dire « ah, moi, je » et machin, c'était plus que effectivement, l'argent peut te rendre très vite con, et je l'ai vécu. Hein. J'ai gagné à un moment beaucoup d'argent, j'ai eu des virements du jour au lendemain importants, demande à Manuel, hein. Il m'a retrouvé le lendemain, j'ai acheté des voitures, j'ai machin, j'ai des trucs, avant de comprendre au bout de 2 ans et d'avoir des discussions avec Manuel où il me dit « mais c'est vraiment ça qui te rend heureux, ce qui te rend heureux, c'est pas juste de faire d'autres choses », et donc tu le comprends un moment.
Oui, mais pour moi, dans une carrière qui te mène à devenir riche, il n'y a pas forcément une formation à gérer l'argent. Un mec qui est footballeur et qui gagne des millions...
Complètement, pour moi c'est les mêmes.
Peut-être que le football, en fait.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, pour moi,
c'est d'ailleurs là où est le problème, c'est qu'en général, il y a tout un entourage qui te dit « je vais gérer pour toi », et puis c'est le début des emmerdes, en fait.
Après, ce qui est difficile, c'est tellement quelque chose de personnel que même tout ce qu'on dit là, à la fin... C'est bien le seul truc qu'il y a avec l'argent, c'est qu'une fois qu'il est sur ton compte en banque, c'est le tien, t'en fais exactement ce que tu veux. Et puis, c'est difficile d'émettre un jugement parce que c'est quelque chose de très personnel. Chaque personne a sa vision de l'argent, sa façon de...
Mais il y a tout un pan qu'on occulte qui est ce que les gens imaginent de toi parce qu'ils savent que tu as cet argent.
Mmh. Ah, oui.
Quand c'est lié à une transaction qui est publique, une vente de boîte, etc. Si c'est une boîte privée petite qui est pas cotée, etc., la transaction elle peut être quasiment invisible. Après, tu as des symptômes, tiens, le mec a déménagé, il a changé de bagnole, son rythme de vie n'est pas tout à fait le même, etc. Bon, déjà il se passe des trucs. Mais quand la transaction est publique, les gens sont au courant. Et là, tu vois tout un tas de gens autour de toi changer de comportement. Ils trouvent tout à fait normal que ça soit toi qui paye l'addition au resto. Et comme ça, plein de trucs. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis le même humain.
Mmh. Je peux changer.
C'est une bonne transition, Manuel.
C'est pas une question de fric. C'est plutôt une question d'équilibre relationnel.
Ouais. Les bons comptes font les bons amis.
C'est le point d'après ?
Pas du tout. Hein ? Troisième point, et c'est marrant parce que tu l'évoquais un petit peu là, et on en a parlé dans le dernier épisode avec l'exemple d'Elon Musk. Plus vous devenez riche, moins les gens autour de vous sont susceptibles de vous dire, lorsque vous avez tort, que vous êtes fou, méchant ou inconscient. Il cite Matt Damon qui dit « Vous êtes socialement et émotionnellement retardé dès que vous devenez célèbre. Votre expérience du monde n'est jamais la même. La même chose peut être vraie et bien plus courante pour ceux qui deviennent riches. Personne ne vous traite jamais de la même manière et le pire, c'est que vous ne le savez peut-être même pas. »
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mmh. Et quand tu combines célébrité et fric, alors là...
Ouais.
Il y a des tonnes de gens qui sont très célèbres, mais qui ne sont pas particulièrement riches, qui ont un niveau de vie aisé, mais qui ne sont pas particulièrement riches, voire même certains sont très endettés parce qu'ils ils confondent la célébrité et les revenus. Et il y en a beaucoup. Mais quand tu combines les deux critères, c'est très très chaud.
Il y avait déjà des podcasts où on avait pu parler de... la position, par exemple, d'un CEO, d'un patron, etc., et de ce que peuvent imaginer les employés quand la boîte grossit. Je pense que ça peut pareil. Ça se travaille avec son entourage, la façon dont on peut se dire les choses aussi, quoi. Mais c'est un fait, c'est vrai. Et j'ai presque envie de dire que on peut pas en vouloir aux gens à côté... qui trouveraient ça normal que tu payes l'addition, s'ils savent que tu as gagné 20 millions hier,
Mais non, mais moi je trouve que c'est anormal. Je trouve que c'est anormal.
Mais parce
qu'ils
ne connaissent pas, ils ne savent pas.
Je trouve que c'est indécent. Je vais te déplacer exactement la même réflexion dans un autre champ. Je trouve parfaitement anormal qu'on crache à la gueule de la famille Arnaud chez LVMH quand ils font un don au Resto du Cœur. Il y a tout un pan des gens qui disent ça représente rien pour eux. Ouais, alors il y a les plus extrêmes qui disent on veut pas de votre argent, etc., etc. Mais je trouve que ce moment dans l'actualité, je sais pas si vous l'avez regardé, si vous avez regardé les réactions et du champ politique et de certaines personnalités, en fait t'as envie de dire mais attends, les Restos du Cœur ont un problème de financement. Malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui font appel au Resto du Cœur et ils nous disent qu'ils servent de plus en plus de repas, etc., etc. Pas un moment, où est le problème? Parce que t'as beaucoup d'argent, t'aurais pas le droit de faire un don?
Parce que d'un seul coup,
ça devient pas un don, ça devient une optimisation fiscale? Dans ce cas-là, on fait plus rien.
Ça peut être les deux.
Mais ça a été exactement la même chose pour Notre-Dame. Avec des sociétés qui se sont mis à faire des dons, en fait, pour la reconstruction de Notre-Dame. Mets-toi à la place du mec qui donne le fric. Dans ce cas-là, ça t'encourage à devenir encore plus un gros con.
C'est ce qu'avait fait.
Dans ces cas-là, je fais rien. Parce que de toute façon, si je fais quelque chose, on me dit que c'est la moindre des choses, ou on me crache à la gueule, ou on veut pas de mon argent parce que j'incarne le grand capital. Et si tu fais rien, t'es un égoïste.
Ouais. Il y avait une conférence où Bernard Arnault avait dit on veut pas de mon fric, c'est pas grave, je monterai pas. Je crois que c'était une école qui voulait monter. Non, c'était quoi? Qui voulait monter à un moment.
Un kebab, je crois.
Ça m'étonnerait. Et il y avait eu plein de.
Mais même pour la fondation Louis Vuitton, ça a été
bien sûr.
Été un calvaire. Ça a été un calvaire pour monter, pour avoir l'autorisation.
Mais dans l'esprit, tu ne peux pas gagner de l'argent tout en donnant. Tu ne peux pas optimiser tout en. Non, il faut choisir. C'est soit tu fais un don et tu donnes que de l'argent et tu n'y gagnes rien. Mais les gens qui voient à chaque fois des process où tu y gagnes quelque chose, où tu récupères quelque chose, où
voilà, le monde n'est pas aussi simple. Il y a un moment, il faudrait quand même être un peu adulte.
Oui, c'est pas binaire. Moi, ce qui m'embête dans cette réflexion, c'est que on oublie la finalité, qui est, à mon sens, la seule chose qui compte, même si tu n'aimes pas la famille Arnaud. La finalité, c'est qu'ils font un don au Resto du Cœur. Si les Restos du Cœur trouvent ça obscène, ils peuvent le refuser, ils le font pas. Donc je pars du principe que la finalité est forcément positive.
Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 40 000 employés, 35.
Ah, je ne sais pas.
Colossal.
Je vais dire des bêtises. À mon avis, c'est plus.
Quatrième loi. Parfois, ce qui vous a permis de réussir, c'est l'inquiétude et l'anxiété. Et vous ne pourrez pas vous en débarrasser une fois que vous serez riche.
Et c'est pour ça que tu réussis jamais aussi bien que quand tu n'as rien.
Pardon, 200 000.
Oui.
200 000 employés.
200 000 employés, 37 000 en France. Donc j'étais pas loin parce que j'avais le chiffre français. Mais
ça me semblait peu avec le retail et tout.
Pardon, excuse-moi.
Mais tu peux pas aussi bien réussir que quand t'as rien. Parce que quand t'as rien à perdre.
Et t'as tout à gagner.
Et donc forcément, tu prends plus de risques. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de pire?
Et t'as la pression.
Donc je pense que t'as plus la pression quand t'as déjà réussi des trucs. Parce que. Du coup, ton spectre social s'est élargi, tu connais plus de gens, tu as rencontré plus de gens, ton réseau s'est établi, tu connais d'autres entrepreneurs, on t'a félicité pour ton succès, pour tes premières boîtes, etc. etc.
Mais quand tu n'as rien, tu as la pression de survivre.
Oui, bien sûr, aussi.
Qui te fait forcément
mais
avancer.
Je pense que tu as plus de pression sociale quand tu as déjà réussi des trucs, parce que forcément, tu as tout un tas de gens qui sont autour de toi et qui se disent « Bon, est-ce qu'il va se planter ou pas ?» Parce que je l'aime bien, je le vois souvent, etc. Mais bon, il m'emmerde un peu quand même. Donc s'il pouvait vraiment se planter, ça me ferait bien plaisir.
L'auteur de l'article dit « Je pense que ce que beaucoup de gens attendent vraiment de l'argent, c'est la capacité d'arrêter de penser à l'argent. Puis, une fois devenus riches, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas abandonner ce stress. C'est devenu ancré dans leur identité. Ils travaillent 80 heures par semaine parce qu'ils veulent ne jamais avoir à travailler du tout. Mais une fois qu'ils ont assez d'argent pour prendre leur retraite, ils ne savent rien faire d'autre dans la vie que travailler. » Refuser de reconnaître que vous avez atteint votre objectif peut être aussi grave que de ne jamais atteindre l'objectif au départ.
Putain, mec, ça me marque hein, cette phrase. Mais d'un autre côté, je vais vous poser la question. Imagine, là, je considère tout de suite que, à partir de maintenant, je peux avoir le train de vie que je voulais avoir avec ce que j'idolâtrais, etc. Je ne vous dis pas du jour au lendemain, bon bah les gars, merci beaucoup, j'ai gagné assez d'argent, maintenant je vais juste finir le dépenser tranquillement dans ma vie pendant 50 ans.
Ça va te faire chier.
À bientôt. Bah, c'est pas possible.
Et c'est pour ça que moi je suis très à l'aise avec le fait de gagner à l'euro-million, c'est que je sais que j'arrêterai pas mon travail. Parce que c'est déjà ma passion.
Oh, est-ce que tu monétiseras encore ta chaîne YouTube?
Il la monétise déjà pas maintenant?
Si, je la monétise.
Ah, ça y est,
depuis pas longtemps.
Ah, bravo,
pas longtemps.
Léo, yes.
Bah oui, j'aurais toujours des sponsors.
Bravo, Léo, c'est la bonne réponse. Et c'était ma deuxième question. Est-ce que tu feras encore des OP avec des sponsors?
Bah bien sûr que oui, Manuel. Tu seras toujours là à me vendre, t'inquiète pas.
C'est juste qu'il aura racheté les boîtes avant.
C'est juste qu'il y a peut-être, peut-être un peu moins de vidéos.
On va faire un peu d'optimisation. C'est toi qui te sponsoriseras toi-même.
Voilà, c'est ça.
Non, mais oui, bien sûr. Mais parce que je veux que ça reste un business comme avant, en fait. Je veux rien changer à ça. Avec toujours des objectifs financiers, etc. Le fait que ta boîte marche sans mon apport financier personnel. Je sais pas, pour moi, c'est ça, en fait.
C'est la preuve d'un modèle pour toi.
Ouais. Ouais, carrément. Ouais, et puis ça reste un projet. C'est pas parce que t'as gagné à la carte chance que tu dois arrêter de jouer au Monopoly de la vie.
Oh, quelle pensée philosophique.
C'était un truc qui m'avait beaucoup marqué avec Manuel, c'est le fait de faire sans jamais penser à l'argent. Mm. C'est un truc ouf parce que pour autant, bah, Manuel gère le business et même dans ton ancienne boîte, etc. À chaque fois que j'avais presque plus l'impression que t'étais un dépensier, mais pas fou furieux. Mais tu pensais pas forcément, enfin, c'était pas grave quoi, de dépenser de l'argent, puis d'en gagner, puis tu faisais jamais un truc pour, enfin la preuve, hein, sinon tu m'aurais jamais, t'aurais jamais été ok pour que je vienne dans ton bureau et que je te ramène le loustic, si tu t'intéressais qu'à l'argent.
Bon, je suis quand même une source d'argent assez
maintenant,
colossale.
Maintenant, mais attends, revois-nous à l'époque, putain. Oh là là.
Tu te dis pas, je vais augmenter ma richesse.
Non. Surtout quand t'en es là avec Imakina, putain. C'est clair.
Quand on vous rencontre comme ça.
Ouais.
Tu te dis pas.
Ah, mais c'est dingue.
Je comprends pas pourquoi.
Ouais, bah voilà.
Parce que, avec mon état d'esprit, même au tout début hein, de Influx, tu vois, au tout début, quand il y avait les premiers créateurs, etc., dans ma tête, je me disais. Enfin, je ne voyais pas du tout la ligne pour que Influx puisse être à l'international ou tu vois. Enfin, je ne savais pas quelle était la route. Je ne l'avais jamais vue, je ne savais même pas la dessiner, l'imaginer. Pour Manuel, tu avais l'impression que c'était logique, il fallait juste laisser du temps. Mais c'était, et je suis toujours surpris de cette capacité à effacer l'objectif de faire du bénéfice tout de suite pour imaginer beaucoup plus loin et beaucoup plus gros. Parce que c'est une vraie capacité quand même.
Moi, j'ai vécu deux étapes dans ma vie. J'ai vécu une boîte privée, donc, que tu te reportes à toi et éventuellement à tes associés, si tu en as. Et j'ai vécu une boîte cotée, où là, c'est pas pareil.
Ouais.
Une boîte privately held, donc cette boîte-là, bon, bah, c'est toi qui définis ton timing, ton niveau de rentabilité, la performance que tu attends d'elle, les dividendes que tu veux distribuer si tu veux en distribuer, etc. etc. Une boîte publique, une boîte qui est listée sur les marchés, ça t'impose beaucoup plus du court terme. Ce qui était dur, ce qui a été un exercice difficile dans ma vie, c'est de continuer à gérer une boîte publiquement listée comme une boîte parfaitement privée.
Ah putain, oui.
Et d'avoir ce raisonnement que tu décrivais. C'est-à-dire, moi, je ne suis ni pingre ni dépensier. J'essaye de dépenser au bon endroit. C'est-à-dire que la question, c'est pas tellement le prix. La question, c'est qu'est-ce que ça te permet de faire plus vite. Si ça résout un problème rapidement qui te fait avancer plus vite vers la destination, l'objectif, la valeur que tu veux générer, alors la vitesse prime, surtout sur un marché qui va vite. Donc, regarde pas trop la dépense, c'est pas le sujet. Après, c'est à quelle vitesse tu vas amortir ta dépense, mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, si c'est dépenser du fric juste pour le show-off, l'ego, les soirées, les machins, les trucs, etc., etc., et que le ROI est tout à fait hypothétique, que ça nourrit surtout ton ego et peu le projet, bah là, je t'inquiète que je vais regarder chaque centime.
Cinquième loi, celle-là m'a intéressé. J'y avais pas
les
trop pensé
non.
jusqu'ici. Si, si, bien sûr, toutes. Il n'existe pas de moyen simple de gérer sa richesse et ses enfants. L'un des riches amis de Charlie Munger, qui est un entrepreneur américain, je crois.
Le meilleur ami de Warren Buffett.
Oui, notamment, il a travaillé avec Warren Buffett.
Investisseur dans British Hathaway, pardon.
Il lui a demandé un jour si laisser beaucoup d'argent à ses enfants ruinerait leur dynamisme et leur ambition. Mmh. Il lui a répondu, bien sûr que ce sera le cas, mais tu dois quand même le faire. Ce à quoi l'ami lui a demandé pourquoi. Et il a répondu, parce que si vous ne leur donnez pas d'argent, ils vous détesteront. Telles sont les deux options qui s'offrent aux riches. Ruiner les ambitions en héritant ou risquer une forme de conflit avec leurs enfants en leur refusant une vie facile.
Moi, je pense qu'il n'y a pas débat.
Hein. Je pense que ça dépend de l'héritage.
Moi, pas du tout. Mais pas du... Moi, je suis contre l'héritage. Donc, le problème est vite réglé. Hein.
Ouais, toi, c'est vrai.
Ouais. T'auras
sauf,
eu...
sauf aux amis, t'as dit. T'aurais... Je crois que t'avais... c'était pas la station
c'est
complète.
C'est ça, la FDJ, ça en fait.
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas d'enfants. J'ai des chats.
Qui, eux, hériteront. Hein.
Et donc,
de leur vivant.
Comme Karl. Ah bah ça, c'est sympa, ça veut dire que tu me prédis une mort rapide quand même. Sachant que mes chats sont jeunes. Je pense que quand tu nais dans un écosystème où il y a déjà quelqu'un qui a réussi, tu nais et tu as une vie qui est déjà privilégiée. Mmh. Parce que tu vis dans des conditions privilégiées de tes parents. Voilà.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, tu as déjà eu un énorme à-compte. Socialement, tu n'es pas le même. Tu n'as pas fréquenté les mêmes lieux, tu n'as pas fréquenté les mêmes personnes, tu n'as peut-être pas été dans les mêmes circuits scolaires que les autres.
Et le reste n'existe même pas pour toi.
Petite pensée pour notre ministre de l'Éducation nationale. Tu as déjà été payé. Tu as déjà eu un énorme à-compte.
Ouais.
Et tu n'as produit encore aucune valeur. Donc, il n'y a aucune raison particulière que tu hérites de ce que quelqu'un d'autre a construit pour toi. L'intelligence n'est pas héréditaire. Et ce n'est pas parce que ton géniteur n'était pas complètement con et a fabriqué de la valeur que tu dois automatiquement y avoir droit.
Ah, c'est même l'inverse.
Et donc, deux questions. Où va cet argent ?
À des associations pour les chats.
D'accord,
évidemment.
Et la vraie réponse ? Argent public ?
Tu peux, de ton vivant, décider de ce que tu veux faire de cet argent.
Mais donc tu le reverses à des associations à...
Oui, ou à des gens, mais qui ne sont pas nécessairement tes enfants.
Ah ok, d'accord. Genre des associés ?
Genre des projets.
Des gens, des potes à toi par exemple. je dis n'importe quoi, un exemple, Léo Duff, des noms, des gens que tu côtoies.
Voilà, par exemple.
Qui ont déjà de l'ambition, tu vois.
Je vois bien, là.
Qui ont déjà connu... moi, j'étais au collège René Caillé, donc j'ai payé déjà.
Voilà, moi, c'est ma pensée. Hein, mais
Deuxième question.
Oui.
Est-ce que c'est uniquement une question d'argent ou aussi de patrimoine ? C'est-à-dire, si tu as des appartements, est-ce que tu les lègues ou pareil, tu les vends ?
Bon, tu peux, c'est à toi de décider de où tu places ton seuil minimum.
Mais dans toi, ta vision des choses ?
Moi, ma vision des choses, c'est que il n'y aura rien de mieux que le carburant d'avoir envie de réussir.
Donc tu lègues rien ?
Donc moi, je ne suis pas pour l'héritage de façon pleine et entière.
Ok. Toi, Romain ?
Je pense que ça dépend du parcours. Je prends mon exemple perso. Je viens d'une famille aisée à Monaco, machin et tout. Peut-être que j'aurai un héritage. J'ai en tout cas vécu une super enfance et tout ça.
Tu l'espères, hein.
Ouais, mais ça m'a pas empêché, tu vois, à 16 ans, de me barrer. Enfin, Léo a connu tout mon parcours. Et parfois, tu pouvais regarder le truc, tu pouvais te dire, mais pourquoi il n'était pas resté à Monaco, cuire en or dans la bouche, faire un truc, tu vois, juste pour gagner du fric, continuer de faire ce qui se faisait dans la famille et tout ça, tu vois. Et je sais pas expliquer.
De là à offrir de l'entraque à tes grands-parents, quand même.
Il est con, putain. Mais je sais pas expliquer d'où je tiens ce truc d'avoir eu envie de faire par moi-même. Et aujourd'hui, après tout ce qu'on a fait, etc., bah, très honnêtement, que tu me donnes 1 million ou 10 millions, ma vie, elle va être la même. C'est juste que je vais investir différemment. Mon investissement sera différent, ma rente sera différente, mais ma vie, elle va pas changer. Hein. J'ai déjà une super vie, je suis content de ce que je fais. Et même par ego, parce que je suis un peu con jusqu'au bout. commencer à claquer ou vivre avec les moyens qui ne sont pas les miens ou de l'argent direct qu'on m'aurait donné, c'est pas forcément mon truc, tu vois.
Mais si ça, c'est le mérite. En
fait. Si t'héritais pas de tes parents ou grands-parents, tu leur en voudrais ?
Bah non, parce qu'ils m'ont appris plus que d'hériter, ils m'ont appris à faire de l'argent. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis né dans une famille où on m'a appris et on m'a donné goût au business. Donc c'est ça, ça m'a donné la sécurité.
Ouais, mais enfin,
de...
tu le prendrais pas bien quand même.
Ouais, mais par exemple,
si demain je te dis c'est ta sœur qui hérite de tout.
Non, non. Ah, ça je le prends mal. Bah, ah, c'est différent. Voilà, évidemment.
Il fallait donner un exemple.
Évidemment. Mais non, mais si tu me dis.
Je connais
si
la bête. Hein.
Bah non, mais si tu me dis. Cousin. Ils ont donné. Horrible.
Tu sais, juste à une personne bien éloignée.
Non, mais si tu me dis, ils ont décidé de donner à personne et parce que j'en sais rien, t'as cette asso qui. Mais en même temps, c'est son fric. Moi, personne vient me dire. Bah, n'investis pas là-dedans parce que je suis ton pote et je préférerais avoir cet argent-là,
c'est,
tu vois.
Donc c'est binaire, c'est tout ou rien.
Ouais, pour moi, c'est soit tu donnes à tout le monde dans ta famille, soit tu donnes à personne, ou tu donnes, voilà, enfin... mais moi, je pense que le plus important, c'est pas ce que tu donnes de façon physique quand tu pars, c'est ce que t'as laissé de ton vivant.
Mais ça, ouais, on est d'accord.
Voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Oui, bien
le
sûr.
Le top, c'est quand même de faire...
Bah, on espère la doublette. Hein.
Et de désigner où est-ce que ça doit aller.
À qui le tour.
Et comment tu veux que cet argent soit employé ?
Bien ouais. sûr.
Voilà. Moi, je pense que ça, c'est important. Mais puisque le sujet, c'est les enfants,
ouais.
je ne considère pas que tu mérites plus parce que tu sors de mes couilles.
Hein. Ah non, je suis d'accord. Là, sur ça, moi, j'ai pas de...
C'est pas comme ça que ça m'arrache une naissance, Manuel.
C'est-à-dire ?
On en discutera après le podcast. Ah.
Mais là, par contre, où je suis d'accord avec Manuel, c'est qu'il n'y a pas le côté forcément... héréditaire, c'est pas parce que t'es sorti de mes couilles que tu dois. Enfin, moi, je serais ok avec le fait de me dire, avec le fait de dire, bah, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Mon enfant s'est comporté comme un connard. Il a fait des trucs qui est, enfin, tout ce qu'il a fait, c'était illégal. Il a fini en prison. Il a sali notre famille, machin et tout. C'est pas parce que c'est mon enfant que je dois lui donner. Si à un moment il a décidé de faire de la merde avec sa vie, bah, et que, à mon sens,
à Monaco, je sais pas, mais en France, en tout cas, comme c'est illégal de déshériter tes enfants.
Ah putain, non, c'est vrai, mais t'as raison, Monaco aussi.
Je pense que t'as intérêt à prévoir l'héritage, c'est-à-dire qu'il faut leur laisser la Fiat Punto. Mm. Peut-être tu l'as acheté exprès pour la leur filer.
Quelle horreur ce podcast,
et du coup, tu files tout le reste ailleurs. Là, ça, je crois que c'est légal.
Enfin, donne de vrais conseils. Hein.
Mais tu peux pas ne rien, absolument non, rien non, leur donner. Vrai. Je suis pas expert. Hein,
mais tu peux dépenser beaucoup d'argent avant de mourir. Hein.
Si je peux avoir plutôt une Tesla, Manuel.
Ouais.
Parce que Fiat Punto,
ça, on n'est pas obligé de mourir pour que tu l'aies, Léo. Hein, si t'en veux vraiment.
J'en ferai rien, Fiat
Punto. N'oublie pas qu'il te faut le permis.
Je peux te payer le permis si tu veux.
Tu peux me léguer le permis aussi. Est-ce que tu peux me léguer ton permis? Comme ça, j'ai pas à le passer.
Putain, j'aimerais bien voir la gueule des gendarmes quand ils vont
voir
la photo.
C'est Manuel Diaz. Parce que
sur mon permis, il y a ma photo de quand j'avais 18 ans.
Ah ouais?
Ah oui, je l'ai pas refait encore.
Mais faudrait peut-être le refaire.
Bah oui,
ça va faire à peu près 25 ans que tu dois le refaire, Manuel. Sixième loi. Une richesse rapide est une richesse fragile. On en parlait tout à l'heure. Deux choses se produisent avec une richesse rapide et fragile. La première est que l'argent qui arrive facilement a tendance à être dépensé facilement. Le vieil argent veut un abri fiscal, le nouvel argent veut une lambeau. L'autre est que plus la richesse a été créée rapidement, plus il y a de chances qu'elle provienne de la chance et qu'elle se retourne tout aussi rapidement. Mettez ces deux éléments ensemble et chaque fois que vous constatez une augmentation rapide de la richesse, vous savez que cela va mal se terminer car la chance se transforme en risque et la consommation ostentatoire se transforme en dette de style de vie discrète.
Complètement. D'accord.
Tout à fait d'accord. Moi, je pense que quand c'est pas relié à l'effort, l'argent te brûle les doigts et tu veux le dépenser très vite. Quand on a un peu chié pour l'avoir... Tu fais attention à comment tu le dépenses.
Tu sais ce que ça vaut.
Et je passe ma vie et vous pouvez tous les deux en témoigner. J'allais dire Romain, mais tous les deux en fait. Je passe ma vie à dire respecte l'argent. Si tu respectes pas l'argent, il te fuira.
J'ai pas entendu quand t'as dit ça.
Alors, tu l'as sûrement entendu, mais pas écouté.
Mais en même temps, c'est pas de ma faute. C'est la taxe Amazon qu'ils ont instaurée là. Oui. Putain, ce que ça coûte.
3 livreurs par jour.
C'est une dinguerie.
Je demande où vont tous ces trucs que tu reçois.
Que fait l'État, Manuel ?
Mais c'est vraiment pour dire les choses, c'est compliqué de comprendre l'argent. C'est pas juste de se dire ah, il faut pas trop en dépenser, etc. C'est faux. Si tu veux en gagner beaucoup, il faut en dépenser, mais en dépenser intelligemment. Faut pas considérer l'argent comme un stock, donc faut pas le conserver, mais faut être. Enfin, tu vois, c'est compliqué de comprendre vraiment l'argent, je trouve.
D'ailleurs, j'ai une théorie. Qui défend l'idée suivante, qui n'est pas consensuelle, pour réconcilier ce pays avec le succès et avec l'argent, il faut, très jeune et très tôt, éduquer les gens à la gestion de l'argent. Mais à l'école, hein. C'est un des rares trucs qu'on ne t'apprend pas.
Non, mais je suis complètement... moi, je suis toujours étonné, mais même moi, de ne pas l'avoir appris correctement. Même si je suis né dans une famille comme ça et tout, je ne l'ai pas appris correctement. Je l'ai appris grâce au business, en parlant avec toi, tu vois.
Et je pense que ça peut s'apprendre tout petit. Mais vraiment, hein, c'est
l'argent de poche,
le sens de la petite souris, si tu veux, mais enfin, au bout d'un moment, t'as pas non plus des milliers dedans.
Hein. Alors, la petite souris t'a apporté 2 euros, l'État te prend 50%, et mais tu dois payer ton loyer.
Je pense que, et plus on l'apprendra, plus on l'enseignera, plus on va aussi démystifier tous ces sujets et expliquer comment ça fonctionne. Et c'est cool pour tout le monde. Parce que c'est très bien d'expliquer qu'il y a des taxes, c'est très bien d'expliquer avec la candeur des enfants, ce sera parfait, ils vont fatalement poser la question à quoi ça sert, et on va devoir un peu justifier de à quoi sert l'argent public, et tu verras que des enfants, pour avoir fait l'expérience, true story, hein, font très très vite le rapport entre tu m'enlèves cet argent sous prétexte de taxes parce que tu me dis que tu me donnes ça comme service, sauf que ton service, il est tout pourri.
Oui, mais on s'en fout, ça marche comme ça quand même.
Bah, on te prend quand même la thune, même si le service est tout pourri. Et je pense que plus on éduquera sur ces questions-là, plus on a de chances d'avoir des gens qui vont vivre tout ça plus calmement.
Et moi, c'est ce qui biaise totalement ma vision de l'argent. C'est qu'entre ce que tu crées et ce que tu as à la fin, je comprends pas ce qui se passe.
T'es né pour être chypriote.
Mais oui, parce que je crois qu'il y a un mec qui a ma carte bancaire et qui fait n'importe quoi avec. Parce qu'à chaque fois, il me manque 80%. Je comprends pas ce qui se passe. Alors, je pense que à l'Élysée, il mange pas du quinoa. Hein.
Quand même, Brigitte.
Peut-être.
T'as vu la ligne impeccable qu'elle a ? Je suis sûr qu'elle mange du quinoa.
Mais à la fin, avec deux profils différents comme Léo et moi, je pense qu'on a tous les deux des connaissances sur l'argent, sur ce que c'est, comment on le gère, etc. Et pour autant, on n'a pas du tout la même utilisation. Et c'est ça qui...
Bah non, c'est ce qui fait que tu ne gagneras pas à l'euro million.
Ah,
et que tu auras le seum.
Au-delà du fait qu'il n'y joue pas. Puisque de toute façon, il ne peut pas y gagner, il n'est pas français.
Sûr, je mérite pas.
C'est pour ça que je dis ça.
Non, mais je pense que si tu n'es pas français, tu ne peux pas gagner.
Non.
Mais tu peux nous le donner,
mais il y a peut-être une loterie à Monaco.
Bah, même
oui,
le
ça s'appelle Monaco.
Oui, ça s'appelle Monaco, c'est vrai, c'est la naissance.
Non, mais vous avez un loto ou un équivalent d'une FDJ à vous, en fait ?
Non.
C'est quoi, c'est une MDJ ?
C'est la loterie, c'est ta carte d'identité, ouais, Manuel. T'as pas compris le principe.
Quand même, hein, parce que c'était quand même le fruit de tes deux cousins.
Non, mais tout ça pour dire qu'on peut apprendre, on peut apprendre aux gens ce qu'est l'argent, sans pour autant qu'ils deviennent tous omnibulés par l'argent et qu'ils veulent tous que de l'argent.
Et c'est pas une garantie du fait d'en avoir.
Exactement.
Non. Mais c'est au moins un minimum d'éducation sur le fait que si t'en as, et peu importe le montant, tu feras pas tout à fait n'importe quoi.
Septième point.
Oui.
Les réputations évoluent dans les deux sens. Parce que les gens veulent s'associer aux gagnants et éviter les perdants. Plus vous réussissez, plus les gens veulent être associés à vous, ce qui est formidable. Mais c'est tout aussi puissant à l'envers. Oui. Une personne en début de carrière peut se tromper et se rétablir rapidement pour passer à l'entreprise suivante. Une personne ou une entreprise qui réussit voit chaque défaut révélé aux informations, saturant les canaux de potins de son réseau. Et ici, un dicton que tu vas apprécier, Manuel.
Ah.
Plus le singe grimpe haut sur le poteau, plus on voit ses fesses.
Ah oui, je le connaissais sous une autre forme.
Oui, je vais passer à la forme.
C'est vrai ?
Tu veux que je raconte ?
Non, je disais c'est vrai ce qu'il dit ?
Oui.
Mais tu peux dire quand même ton dicton.
En fait, on dit que plus le singe est vieux, plus il est haut dans l'arbre pour donner ses instructions, et son armée d'exécution qui est en dessous, quand il lève la tête, qu'est-ce qu'il voit ? Un trou du cul.
C'est bien.
Très bien.
Mais c'est, enfin, ce point-là dit que, enfin, et confirme le fait que quand t'es riche, bah, t'es de plus en plus riche, mais c'est de plus en plus difficile de garder cette vérité longtemps. Parce que si tu te plantes sur un truc, c'est...
Économiquement, déjà, je pense que c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps. C'est un mécanisme qui n'est pas admis par tout le monde, alors qui, moi, me paraît évident, mais on te file une somme, imaginons 1 million d'euros.
Yes.
Maintenant.
Ah, c'est pas vrai ?
Non, c'est pas vrai.
Non, mais préviens.
Si tu fais rien avec, à la fin de l'année, il est dégrévé de l'inflation.
Oui.
Donc, Et ça, il y a plein de gens qui le comprennent pas.
Mais alors pourquoi tu m'engueules quand je dépense mon argent ?
Non.
Je comprends pas, il est fou en fait.
Il faut le mettre en mouvement. Le fait qu'il soit statique te fait perdre de l'argent.
Ouais, bien sûr.
Et ça, y a, ne serait-ce que ça, il y a déjà plein de gens qui le comprennent pas. Et c'est pas parce que tu le places sur un compte, à la banque, très moyennement rémunéré, etc. Bah, l'inflation, elle est aussi valable pour la banque. Hein, donc, t'as intérêt à te bouger un peu quand même.
Mais le point, il n'était pas vraiment économique. C'était plus sur une question d'image.
De confiance, de ton réseau, de... Mais ce qui t'apporte...
Je pense que tu l'apprends sur le parcours ouais. assez vite, en fait. Parce que t'as pas besoin d'avoir accumulé de la richesse ou quoi que ce soit. Si tu fais déjà des choses pas comme les autres, tu t'exposes déjà aux potins, au fait d'avoir des critiques, etc., etc. Donc oui, évidemment, si tu mets du fric en plus là-dedans, bah, c'est un détonateur supplémentaire, mais ne serait-ce que ne pas te comporter comme les autres est déjà source de critiques. Moi, je plains les gens qui ont absolument besoin d'être consensuels et d'avoir la validation de la majorité des gens qui les entourent, parce que tu peux être sûr que c'est...
C'est en général pas les gens à succès.
Bah, c'est surtout qu'ils vont être très malheureux. Dans une société qui, à coup de pseudo, passe son temps à critiquer tout ce qui les entoure. Donc, fatalement, statistiquement, tu vas être critiqué. Donc il vaut mieux qu'on te prépare à être critiqué, peu importe la raison, que ce soit ton comportement, tes goûts, tes choix, tes préférences, ton fric, ton mode de vie, n'importe quoi, bah, prépare-toi à encaisser la critique. De toute façon, tu seras critiqué.
Huitième
erreur. Ouvre Twitter pour t'en convaincre.
Oui, ça je le fais déjà.
Voilà. Mais c'était pas à toi que je parlais personnellement, okay, putain, en fait.
J'ai du mal. Huitième et avant-dernier point. Les attentes peuvent augmenter plus rapidement que les revenus. De sorte qu'un revenu plus élevé rende les attentes incontrôlables. Certaines des personnes les plus riches sont les plus sujettes à des attentes incontrôlables, car elles deviennent hyper conscientes de la façon dont vivent les autres personnes riches. En 1907, l'auteur William Dawson a écrit sur la façon dont le sentiment de richesse est relatif à ce à quoi vous êtes habitué. Un homme instruit, habitué aux moyens faciles, souffrirait de tortures indescriptibles s'il était obligé de vivre dans une seule pièce d'un immeuble populeux et sordide. Et devait subsister avec un salaire à la fois mesquin et précaire. Mais l'homme qui n'a connu aucune autre condition de vie est inconscient de sa misère. Il n'a aucun standard de comparaison. Un environnement qui pousserait un homme raffiné à des pensées suicidaires ne produit pas chez lui la moindre insatisfaction. Il y a donc bien plus de bonheur parmi les pauvres qu'on ne l'imagine. Ça, je suis un peu d'accord.
Moi, je suis très d'accord.
Et en même temps, il a écrit ça à l'ère où Instagram n'existait pas. Donc, tu avais moins conscience de ta différence avec le reste du monde. Mais je pense effectivement que ton niveau de bonheur est simplement...
relatif à ce que tu connais.
Au niveau de ce que tu connais et de tes possibilités, en fait.
Tout le monde aime les pommes de terre. Ouais. Mais je les préfère avec du caviar.
Non, mais en fait, même...
Et tant que tu n'as pas goûté, tu ne sais pas.
Même des gens de la classe moyenne peuvent se plaindre. Il n'empêche qu'il y a des gens plus pauvres qu'eux qui, eux, ont plus de raisons de se plaindre.
Oui.
Donc je pense que t'es toujours ton niveau de plainte est proportionnel à ce que t'as véritablement.
C'est comme la connerie, tu es toujours le riche d'un autre et le pauvre d'un autre. C'est comme ça. Mais par contre, j'aime bien le début de ce point qui dit que grosso modo tes attentes augmentent avec ton niveau de richesse.
Ouais.
Ça doit être à peu près ça.
Ouais, ouais.
Moi je le résume avec un bon proverbe paysan qui parle des gens qui dépensent l'argent avant de l'avoir fait. Ça s'appelle vendre les œufs dans le cul de la poule. Elle n'a pas encore pondu que tu as déjà vendu la ponte. Ben, c'est pareil. Et ça mène à beaucoup de pertes.
Il dit tout ce qui est bon dans la vie n'est que l'écart entre les attentes et la réalité. Et lorsque votre cadre de référence principal est constitué d'autres personnes riches qui tentent de s'impressionner les unes les autres, cet écart peut se combler rapidement.
Quand tu t'émerveilles plus de te dire... peu importe le produit, je vois un produit qui est très cher, qui me fait plaisir, et sur un coup de tête, je l'achète et je suis content. Quand tu peux pas t'émerveiller d'avoir cette capacité à le faire, t'as perdu un peu connexion avec la réalité.
Et est-ce que du coup c'est difficile d'être très riche et d'être entouré de personnes qui ne le sont pas forcément ?
Non, c'est pas difficile. Je pense à mon quotidien quand je vous vois tous les jours.
Yes. Plaisir.
Non,
mais c'est vrai.
Je sais pas. Moi, je raisonne pas comme ça. Je me pose pas cette question.
Tu parlais tout à l'heure des gens qui considèrent que parce que tu as plus d'argent qu'eux, ils s'attendent à ce que tu payes, etc. C'est des sujets qui peuvent être hyper difficiles à gérer.
Ouais, mais ça, c'est quand ça vient soit rapidement, soit que t'as pas toujours eu ce même cadre de vie ou entourage. Mais je pense que quand ça se voit dès le collège ou dès le lycée, en fonction des moyens déjà de tes parents, tu vas pas sortir dans les mêmes endroits ou avec les mêmes personnes, t'es pas invité au même goûter d'anniversaire quand tu as des autres enfants dans ton école qui ont des moyens que d'autres.
Moi, donc, je suis un produit de la classe ouvrière française, de la classe moyenne française, plutôt ouvrière. Il fallait compter. J'ai travaillé, j'ai fait des boîtes, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça a considérablement changé ma vie. Maintenant, je raisonne tout à fait différemment pour ne pas vivre la déception dont tu parles. C'est qu'à aucun moment, je n'envisage ne pas payer. C'est le prix de ma liberté. J'invite des gens, je paierai.
Moi, j'ai du
ça,
mal.
Ça crée aucune équivoque. Ça enlève la gêne du côté de la personne qui est invitée dans un endroit qui est cool et qu'elle ne pourrait peut-être pas se payer. Ça me fait plaisir de faire découvrir cet endroit. Et ça enlève tout équivoque sur le fait d'être redevable ou je sais pas quoi. Je t'invite.
Oui, mais si c'est formulé ainsi, moi j'ai juste du mal avec le fait que les gens considèrent que c'est un dû.
Ouais, parce que ça se voit assez vite. Quand
parce que t'es plus riche, mais il y a plein de gens pour qui c'est une évidence.
Ouais, mais ça c'est quand t'as des écarts qui sont pas. Enfin, moi j'ai quand même envie de dire la vérité, c'est que plus t'es riche, plus tu traînes dans des endroits
de la merde.
Non, mais plus t'es riche, plus tu traînes dans des endroits de riches, plus tu vas forcément avoir des gens riches autour de toi.
Je
suis désolé, moi depuis que je prends la classe business, je parle plus aux mêmes personnes que quand là je vais retourner en économie à New York, tu vas voir que mon camarade à côté, il va pas me parler des mêmes sujets que celui quand j'étais en business. C'est une réalité.
Pour moi, c'est même
Il sera peut-être plus intelligent, hein. C'est pas un niveau d'intelligence ou autre, c'est la personne à côté de moi en business, je vais pouvoir lui dire, bah tiens, on va aller là-bas à New York, elle va me dire, bah ok, parce qu'elle connaîtra peut-être déjà l'endroit, alors que l'autre personne connaît. Donc, moi je pense que ce cas-là arrive quand c'est des gens plutôt soit dans la famille, soit des très anciens amis, etc. Moi aujourd'hui je vois, j'ai des amis qui on a pas tous pris la même voie. Il y en a qui ont pris une voie encore plus folle que la mienne, d'autres moins bien, etc. Juste d'un point de vue financier, encore une fois, je parle pas du tout d'intelligence ou la personne qui serait plus ou moins intéressante juste parce qu'elle a plus ou moins d'argent. Mais la réalité c'est quand même que plus tu gagnes de l'argent, plus t'as envie de t'offrir des belles choses. Plus tu t'offres des belles choses, plus tu tombes à un endroit où il y a d'autres gens qui peuvent s'offrir des belles choses. Donc c'est quand même rare. Enfin, moi, je vois peu de millionnaires qui sont toute la journée avec des gens qui sont fonctionnaires. J'en connais aucun. Mais dites-moi si je me trompe, mais tous les millionnaires que j'ai pu rencontrer n'ont pas des meilleurs amis qui sont fonctionnaires.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Ah ouais ?
Meilleur ami, c'est un peu différent. Mais naturellement, je suis d'accord avec le fait que si demain, je peux me payer des vacances à Bora Bora, prendre un billet en business class, etc. Machin. Peut-être que j'emmènerai pas un ami qui est pas forcément mon meilleur ami. Peut-être que je lui paierai pas tout le voyage. Donc je pense que naturellement, il y a un tri qui se fait. Et peut-être que tu vas partir avec 10 potes qui ont ce niveau de revenu et qui leur rend possible.
Quel enfer.
Mais je pense que.
Partir avec 10 potes, c'est plus des vacances.
Non, mais je pense que naturellement, effectivement, il y a un tri qui se fait.
Mais moi, c'est ce que je trouve magique avec les réseaux sociaux. Quand il y a des interviews ou autres qui sont accessibles par tous, sur Twitch, sur YouTube et autres, et que peu importe qui tu es, peu importe ton niveau de connaissance et autres, tu as accès à ça. Je trouve que moi, c'est ce qui me fascine dans mon métier, c'est ce que j'adore. C'est me dire, putain, mais quand j'avais 15-16 ans, si j'avais pu écouter ces gens en live, poster mon commentaire, alors que je suis au fin fond du trou du cul du monde, j'ai jamais eu la chance de côtoyer des gens qui savaient ce genre de choses-là ou qui avaient ce niveau d'information.
Ouais.
Ça redistribue un peu les cartes, je trouve ça génial, quoi.
Moi, je trouve tout aussi détestable les profiteurs dont tu parles qui vont attendre du mec qui lead économiquement le groupe qu'il soit invité, qu'il paye, machin, etc. Ouais. Je trouve tout aussi détestable que les mecs qui ont du fric et qui ne restent qu'entre eux.
Ah oui,
qui jugent les gens en fonction de leur revenu, leur statut social et tous les critères sociaux qui vont autour. Tous les clubs, toutes les castes, tous les gens qui restent en circuit fermé, etc. C'est ça que je trouve tout aussi détestable. C'est peut-être mon particularisme, mais je prends autant de plaisir à discuter avec un artisan boulanger qu'avec un patron du CAC 40, dès lors qu'ils sont tous les deux de bons humains et que le moment est cool. Parce qu'il y a des artisans boulangers qui sont détestables et il y a des patrons du CAC 40 qui sont détestables et qui sont des voyous. Et donc, je pense qu'à partir du moment où tu appliques au monde qui t'entoure le premier filtre qui serait « dis-moi combien tu gagnes et je vais te dire si on va pouvoir se fréquenter et quel va être mon comportement avec toi », ce qui est le cas de beaucoup de gens qui ne se comportent pas du tout de la même façon avec un mec qui gagne moins qu'eux ou un mec qui gagne plus qu'eux. Et là, tu te rends compte que t'as beau pas aimer le Nutella, il y a quand même beaucoup de lèche-cul.
Aux US, je peux vous en parler.
Et ben, c'est fascinant. Mais moi qui suis un adorateur de l'anthropologie et du comportement des gens et regarder comment le monde évolue, m'asseoir dans un coin de pièce et regarder les gens, je t'assure qu'il n'y a rien de plus fascinant que le spectacle des humains dans leurs relations les uns vis-à-vis des autres.
Mais ça, c'est la théorie. Et je suis d'accord avec ça. Je crois que dans la pratique, c'est un peu différent. C'est pas une question de plus parler aux gens, c'est juste que naturellement, et on fait ça depuis notre naissance, tu finis par traîner dans les mêmes endroits que les gens de ta catégorie sociale, de ton niveau de revenu, parce que tu vas pas dans les mêmes restaurants, parce que tu vas pas dans les mêmes boîtes de nuit si tu vas dans des boîtes de nuit.
C'est pas vrai, à midi, j'ai mangé dans une cantine sordide.
Oui, mais c'était malgré toi. Il n'empêche que tu t'iras pas dans le même salon de coiffure que quelqu'un qui n'a pas tes revenus, ouais, t'iras pas dans le même restaurant que quelqu'un qui n'a pas tes revenus, donc je pense que naturellement...
Non, je suis d'accord avec toi, Léon.
Attends, mais ce qui est rigolo, c'est que moi aussi, enfin, on est tous d'accord là-dessus, mais on se connaît tous dans le perso. Manuel, dans le perso, n'a pas des millionnaires autour de lui. Moi, dans le perso, la personne avec qui je vis n'est pas du tout millionnaire et ne l'était pas du tout quand on s'est rencontrés. Et pour autant, ça a matché de fou. Et parce que intellectuellement, il y avait cette envie de faire des choses, etc. Et donc, il y avait ce côté entrepreneurial. C'était une caractéristique. Mais je pense que c'est plus ça qu'on remarque, même si, comme tu le dis, factuellement, au quotidien, on rencontre plus des gens qui peuvent être dans notre classe sociale au vu des endroits qu'on fréquente, c'est normal. Enfin, Manuel et moi, vous ne nous verrez pas à une brasserie en train de boire une bière à 17h. Donc forcément, on ne pourra pas être avec les gens qui sont en train de boire une bière à 17h.
C'est sûr, déjà, je n'aime pas la bière. Mais ce n'est pas vrai, j'ai des millionnaires autour de moi. Parce que l'histoire d'Imakina a fabriqué 17 millionnaires, c'est la chose dont je suis le plus fier. Mais par contre, ils ne se comportent pas comme des millionnaires.
Ouais. Mais l'exemple que tu prends, ce sont des gens qui étaient déjà...
Et t'en connais certains.
Ah mais...
Et je te vois scanner dans ta tête, pardon Léo.
Non, mais et... j'en connais, mais je parlais même plus proche, Manuel. Je parle dans ton cercle, famille, perso, etc.
Franchement proche.
T'es pas avec des gens qui gagnent beaucoup de fric, ou en tout cas, t'es pas pour ces raisons-là. Quoi.
J'en ai rien à foutre,
mais parce que tu l'as dit au début, moi je suis OK pour dire que j'aime la personne pour ce qu'elle est, et si je dois tout payer parce que ça m'offre le plaisir de partager cet endroit avec une personne que j'aime, ben moi j'ai complètement cette philosophie-là. J'ai pas de...
Mais depuis tout à l'heure, tu parles de la personne avec qui tu vis, ton meilleur ami, etc. Pour moi, ça c'est autre chose.
Okay.
Demain, je gagne l'euro-million,
tu changes
ami,
pas ton entourage.
Il fait le tour de la planète, il n'y a aucun problème. Il n'empêche que naturellement,
quand tu as beaucoup de fric, tu deviens beaucoup plus méfiant sur tes relations sociales.
Aussi.
Parce que une question que tu ne te posais pas avant,
comme la célébrité, ouais.
C'est pourquoi me fréquente-t-il ?
Ouais.
Ou elle ? Demande au footballeur.
Ouais.
Demande à Zaya.
Oh, ça, ils le savent depuis la première nuit. Hein.
Donc, c'est une question que tu ne te poses pas avant.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Mais c'est, comme tu le dis, c'est exactement c'est ce qui prouve mon point. C'est exactement comme la célébrité. Est-ce que les gens te fréquentent pour être vus avec toi ? Pour avoir leur instant de fame, ou est-ce qu'ils te fréquentent parce qu'ils t'aiment bien ?
Ouais.
Et c'est une question que tu n'avais pas avant d'être célèbre ou avant d'avoir un peu de fric. Il n'est pas nécessaire d'en avoir beaucoup. Hein.
Ouais. Ben moi, ça m'est déjà, sans avoir aucun de ces deux problèmes, ça m'est déjà arrivé de me poser la question sur des personnes, de me dire, mais j'ai l'impression que je paye tout à chaque fois. Est-ce que à un moment donné, on va pas mettre...
Je sais de qui tu parles.
Je sais que tu sais de qui
moi
je parle.
Moi aussi.
Donc pour moi, c'est des questions légitimes et il n'y a pas de problème avec les gens qui étaient déjà là dans ta vie, mais je pense que tu feras pas les mêmes rencontres plus tard.
C'est vrai.
Neuvième et dernier point, c'est plutôt un petit rappel assez évident. personne ne se souviendra de vous dans 100 ans. Alors autant vous concentrer sur ce qui va vous rendre heureux maintenant, plutôt que sur ce que l'argent pourrait vous acheter à l'avenir.
Je suis absolument d'accord avec ça. Je passe mon temps à dire « tu peux être mort dans 3 minutes ».
C'est vrai.
Voilà. Donc,
si on peut remplir quelques papiers avant Manuel.
Mais c'est pour ça que, sans faire des dépenses déraisonnées, j'ai jamais eu de problème avec le fait de dépenser du fric pour te faire plaisir. Quand tu peux le faire, je veux dire, tu vois, quand t'as stabilisé ton niveau de vie et que tu te dis, tiens, au-dessus de mon niveau de vie, j'ai ça et je peux faire ça, bah, les gens qui te disent, ils ont 30 ans, ils te disent, non, mais je mets tout de côté pour mes enfants plus tard et ils pensent à quand ils auront 80 ans, tu te dis, mais en fait, s'il faut, t'es pas là dans 5 jours. Alors que tu fasses un truc raisonnable, mais de là à ce que tu penses à 50 ans de vision, personne ne le fait, quoi. Enfin, pense un peu. Enfin, pour moi, déjà, je trouve qu'au départ, la façon dont tu imagines la vie, elle est super triste. Les gens se disent, je vais bosser et je vais profiter de rien jusqu'à la retraite, 60 ans en moyenne, et après, mais après, t'as plus l'énergie pour, t'as plus forcément l'envie pour, t'as plus les yeux émerveillés pour. Enfin, je trouve qu'il faut réussir et se donner les moyens de presque faire l'inverse. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour travailler vite et bien, et comment, à partir de mes 30-35 ans, je commence à profiter de la vie, mais de telle sorte à pouvoir en profiter pendant 30 ans ou 40 ans. Pas en profiter comme un flambeur à Ibiza pendant 10 ans, après t'as plus rien et puis tu te retrouves une main devant, une main derrière à 40 ans. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est quand même important d'apprécier aussi gagner de l'argent, et ça passe par le fait d'en dépenser, mais dans des choses humaines, des voyages, ça ne regarde que moi, mais des expériences, des souvenirs. Moi, je ne compte pas pour les souvenirs, avec les gens que j'aime en tout cas. Voilà.
Tu ferais quoi, Manuel, si t'étais riche?
Non, mais ça changerait quelque chose que tu sois milliardaire. Imagine. Comme ça, on fait dans des proportions. Tu vois, Léo, c'est 1 million, toi, 1 milliard. Il se passe quoi?
Non, mais c'est plus qu'un million, par contre. Non, non, attends. Parce que là, en ce moment, c'est 3 millions, le gain. J'ai pas envie de gagner maintenant. Hein. Non, mais attends, il y avait 200 millions la semaine dernière.
Donc, tu joues plus, du coup? Comment tu fais?
Si, je joue quand même.
Ah.
Mais si je gagne, je suis un peu chafouin.
Ah.
Le connard.
Mais à 3 jours près, j'ai gagné 200 millions. Évidemment que je suis chafouin.
Ah, putain.
Ouais, c'est... Tout le monde oublie que le facteur entre 1 million et 1 milliard, c'est 1000. C'est beaucoup.
Énorme, c'est énorme.
C'est un peu abstrait comme ça, mais c'est beaucoup. Donc évidemment que la quantité de tes emmerdes augmente.
Ah putain, ça c'est sûr. Oh, malheur, j'imagine pas.
Ah, j'ai pas envie d'être trop riche, moi, par contre.
Des petits tableaux Google Sheet avec 1 milliard, t'imagines? On le fera en live.
Il y a un juste milieu, je crois. 200 millions, c'est bien.
200 millions, tu commences à bricoler des trucs.
Ah, 200 millions, tu bricoles? Bah, moi, je bricole rien, je te donnerai ma carte bancaire et tu me diras ce que je peux acheter ou non. Mais oui, c'est bien, 200 millions.
Oui.
Vache. Moi, déjà, 10 millions, c'est...
Oui, non, mais bien évidemment.
Tu vois. Non, mais attends, qu'on se le dise. 1 million,
non, mais...
ça part très vite. Non, mais attends,
Léo,
un million,
il a des échelles FDJ dans la tête.
Ah
oui, absolument.
D'accord.
C'est-à-dire que toutes les fois où j'ai mis 2,50€, c'est pas pour gagner 10 millions.
Parce que 1 million, ça fait rêver beaucoup de gens, mais les gens oublient que si tu travailles correctement toute ta vie, tu auras gagné dans ta vie 1 million. C'est juste que tu les auras pas.
1 million, ça change ta vie sur le moment.
Voilà.
Et peut-être
mais
sur
pas,
10 ans.
Voilà.
Mais pas toute ta vie,
non,
c'est impossible.
C'est... Enfin, il...
Bah non, et on va peut-être dire un truc qui va choquer des gens, mais 1 million, c'est pas le prix d'un très bel appartement à Paris.
Ouais. Ouais.
Alors ça va c'est peut-être clair. Choquer des gens, mais
ah,
c'est,
bien sûr,
c'est
bien
la
sûr.
Réalité économique du marché.
Donc New York, t'as une cave.
1 million, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et en fonction de où tu es sur la planète, c'est à la fois pas beaucoup d'argent. En dessous de plusieurs dizaines, tu changes pas grand-chose.
Ah, quelques trucs quand même.
À partir de la centaine, ça commence à bouger,
ouais,
des choses.
Quelques trucs quand même. Ne serait-ce que, t'imagines, s'acheter un appartement, ça change des vies.
Mais ça, tu peux le faire aujourd'hui avec un prêt.
Oui, bah d'accord, mais c'est pas pareil.
Bah et pourquoi? Mais ça, c'est un truc, ça je comprends pas.
Parce
pourquoi.
Que dans la tête, dans la main, tu oublies la question du remboursement.
T'as pas besoin de le payer.
Ben non, mais je veux dire, tu payes un loyer. Si ton rêve, c'est d'être propriétaire, au lieu de payer un loyer, ben, tu payes un prêt, t'auras un plus petit appart, il aura moins de valeur que si tu le louais, ça c'est sûr, etc., avec tous les frais qu'il y a à côté.
Mais c'est pas
mais
ça,
si
c'est
envie d'être propriétaire.
Tu dois le rembourser, t'as la pression de faire ton chiffre d'affaires ou alors de continuer à bosser dans ta boîte, enfin, t'as plein de.
T'aurais
plein
payé
de pression.
Un loyer, quoi qu'il arrive.
Oui, non, mais ça bien sûr. Mais une fois que tu as un prêt, c'est un peu plus officiel. Tu peux pas quitter l'appartement comme ça.
Bah donc si, il faut le vendre.
C'est de nouvelles pressions. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quand tu peux le payer cash parce que tu as gagné au loto, c'est pas les mêmes emmerdes. Et surtout, tu sais que tu ne touches plus à ton salaire. Il est payé l'appartement.
Mais
tu sais que même
c'est là où j'interviens, Léo. C'est qu'à partir du moment où tu as gagné au loto, tes 200 millions, tu vas surtout pas le payer cash.
Bah évidemment.
Parce que l'argent devient gratuit. Hein.
Bien sûr. Mais tu ne touches.
Les vendeurs d'argent, c'est leur métier.
Mais tu touches pas à ton salaire. Ton salaire, c'est 100% de bénéfice. Moi, j'ai hâte. Hein. Je dirai dans le podcast le jour où je gagne. Non, c'est pas une bonne idée, ça, peut-être.
Si.
Si, c'est, je peux.
Ouais. Écris-le, c'est une bonne idée.
Bah, j'ai pas gagné encore. Mais là, vendredi, là, il y a 180 millions, Manuel.
Prépare-toi, Léon.
Je vous donnerai à chacun des nouvelles.
Nous, on a déjà un deal.
Ah, non, non, j'ai pas signé ce deal.
Merci, les gars.
La bise.
All looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at allbirds.com today. That's allbirds.com.